Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Et il y a une semaine, c'était le 10 décembre, dimanche 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme, et je vais donc vous parler aujourd'hui de la Déclaration universelle des droits humains, qui est un document qui sert de feuille de route mondiale en matière de liberté et d'égalité, et c'est un document qui protège les droits de chaque personne partout dans le monde. Pour la première fois lors de sa rédaction, des pays se sont mis d'accord sur les droits et les libertés qui nécessitaient une protection universelle afin que chacun et chacune puisse vivre dans la liberté, l'égalité et la dignité. Le travail sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a commencé en 1946, lorsque un comité de rédaction composé de représentants de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Liban, la Chine, ce comité a donc été créé en 1946. Le comité de rédaction a ensuite été élargi pour intégrer des représentants de l'Australie, du Chili, de la France, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni, afin que le document soit rédigé dans la contribution de pays de toutes les régions du monde et qu'il intègre également leurs diverses spécificités, que ce soit religieuses, politiques ou culturelles. La Déclaration universelle des droits de l'homme a ensuite été examinée par tous les membres de la Commission des droits de l'homme. La DUDH a été adoptée le 10 décembre 1948, donc 2 ans après la création du comité. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée donc le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, juste après la création de celle-ci, en réaction aux actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son adoption reconnaît les droits humains comme la base de la liberté, de la justice et de la paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un document qui est historique parce que pour la première fois, le monde a adopté un document en vertu duquel tous les humains sont libres et égaux, indépendamment de leur genre, de leur couleur de peau, de leur croyance, de leur religion ou de toute autre caractéristique. Elle se définit en 30 droits et libertés inhérents à tous les humains, dont personne ne peut les priver. Aujourd'hui encore, ces droits constituent la base de l'ensemble du droit international en matière de droits humains. C'est donc un document qui est très important, mais surtout c'est aussi un document qui est vivant, c'est le document le plus traduit au monde. Les 30 droits et libertés qui sont énoncés dans la DUDH comprennent le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et le droit de solliciter l'asile. Elle prévoit des droits civils et politiques comme le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la vie privée, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels, comme par exemple le droit à la sécurité sociale, à la santé et à un logement convenable. Et enfin, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous montre que les droits humains sont interdépendants et indivisibles. Chacun des 30 articles de la Déclaration a la même importance. Personne ne peut donc décider que certains sont plus importants que d'autres, ce qui veut dire que la violation d'un droit a des conséquences néfastes sur tous les autres droits. Si vous voulez les connaître, Amnesty International a fait un petit résumé de tous ces droits que vous pouvez trouver sur notre site amnestyinternational.fr et c'est rédigé dans l'ordre en 3 parties comme je viens de l'évoquer. Cette année, le 10 décembre 2023, ça devait donc être l'occasion de souhaiter un très bon anniversaire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette vieille déclaration protectrice des faibles et intraitable avec les plus forts. Mais à l'heure du bilan, force est de constater que son impact peut légitimement être remis en question. Alors 75 ans après, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce texte fondateur est essentiel et devenu un menu à la carte pour certains États? 75 ans donc après la signature de la déclaration, après la guerre froide et ses multiples conflits par procuration, les génocides au Cambodge et au Rwanda, les nettoyages ethniques en ex-Yougoslavie, des régimes militaires ayant prospéré sur tous les continents, les crimes de masse au Xinjiang et au Tibet, les invasions de l'Irak et de l'Ukraine, les guerres sans fin au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on peut encore donner comme sens à la déclaration de 1948 ? Le système international des droits humains s'est pourtant largement étoffé avec l'adoption et la ratification de textes internationaux toujours plus complets sur les questions des droits civils et politiques, mais aussi en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Et tous ces textes se basent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, désormais ancrée dans de nombreuses constitutions et qui a inspiré des communautés d'États comme l'Union africaine, l'Organisation des États américains, etc. Et ce, sur tous les continents, pour élaborer des conventions communes dans ce domaine. Mais en dépit de ces avancées sur le papier, les plus optimistes qui prédisaient, après la chute de Berlin, l'avènement de la fin de l'histoire et la mort du totalitarisme, ont dû très vite déchanter. Ce sont surtout les systèmes répressifs comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie qui se sont renforcés depuis, interdisant toute forme de contestation en interne et menaçant les fragiles équilibres régionaux par réflexe nationaliste ou expansionniste. Leurs dirigeants rejettent d'ailleurs les valeurs occidentales, selon eux promues par la DUDH, et qui ne seraient pas compatibles avec leur propre histoire, leur propre religion ou leur idéologie. Un relativisme culturel qui a fait long feu au vu de l'extraordinaire mobilisation des sociétés civiles du monde entier autour des principes de la DUDH ces dernières décennies. Même si l'hypocrisie culturelle connaît aujourd'hui un regain de vitalité via les discours de haine véhiculés via les réseaux sociaux notamment. D'autres dénoncent aussi l'hypocrisie des États traditionnellement promoteurs de la DUDH, mais qui refusent d'admettre qu'ils peuvent eux-mêmes avoir un comportement pour le moins ambigu avec ces mêmes principes. Qu'il s'agisse des anciennes puissances coloniales européennes lors des guerres d'indépendance, mais aussi des États membres de l'Union européenne aujourd'hui, qui n'hésitent pas à durcir leur législation sur les migrations au mépris des droits fondamentaux. Ou bien encore, bien sûr, de la superpuissance américaine qui n'a jamais caché que ces principes universels n'avaient de valeur que s'ils servaient leurs propres intérêts. Ce double standard est probablement ce qui risque de porter le plus atteinte à ce texte fondamental et au système international dont il est censé être la colonne vertébrale. L'afflux d'argent de la part de nombreux États pour les enquêtes de la Cour pénale internationale après la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine cache assez mal le fait que beaucoup de ces mêmes États se sont toujours opposés à de telles investigations en Israël et dans les territoires palestiniens occupés ou encore pour les crimes commis par les États-Unis en Irak ou en Afghanistan. Partout, ou presque, les États les plus forts utilisent la DUDH et le système international comme mouchoir jetable ou un menu à la carte en y sélectionnant que ce qui les intéresse ou peut nuire à un pays adverse. L'affaiblissement du multilatéralisme est probablement la principale cause et la principale conséquence de ce deux poids, deux mesures. Il a été à l'origine de nouveaux fronts meurtriers et un frein au règlement de conflits plus anciens. Il est donc nécessaire aujourd'hui de modifier en profondeur le système de gouvernance mondiale. Le nettoyage ethnique des Rohingyas, la guerre d'invasion russe en Ukraine, l'attaque du Hamas le 7 octobre et la réponse disproportionnée israélienne dans la bande de Gaza ou encore les conflits oubliés mais extrêmement meurtriers au Sahel, dans l'est de la République démocratique du Congo ou encore dans la Corne de l'Afrique ne sont en effet que les symptômes apparents de cet affaiblissement du système international et de la conception utilitariste des droits humains par certains États. Les pays du Sud global font remarquer, à juste titre d'ailleurs, qu'il convient désormais de modifier en profondeur le système de gouvernance mondiale et réclament un nouveau système pour prévenir les crises. Et ces pays n'ont pas tort sur le fond. Le système international chargé de faire respecter la DUDH et qui atteint aujourd'hui ses limites a été mis en œuvre à une époque où nombre de peuples étaient sous le joug de l'impérialisme et de la colonisation. La composition du Conseil de sécurité et de nombreuses institutions internationales s'en ressentent encore, en dépit de quelques avancées. Certains États censés garantir la paix et la sécurité dans le monde sont d'ailleurs aujourd'hui, comme la Russie ou les États-Unis, directement ou indirectement responsables des conflits les plus dévastateurs, empêchant par le seul jeu du droit de veto toute possibilité de résolution de ces crises. C'est un héritage qui aujourd'hui nous incite à passer à l'offensive. Il y a pourtant des raisons d'espérer. Dans les domaines des droits des femmes, des droits des personnes LGBTI+, des peuples autochtones, etc., des États ont pu progresser et des populations entières ont vu leur situation s'améliorer concrètement. Le recours à la peine de mort a également fortement reculé. Donc il y a quand même des avancées notables. Depuis 75 ans, la principale réussite de la DUDH, ça a certainement été son adoption par les sociétés civiles du monde entier. Ce sont elles qui font progresser les idées de justice pénale internationale ou de droit environnemental, et c'est elles qui défendent les populations les plus faibles au quotidien. Ce serait d'ailleurs logique, puisque ce sont elles qui défendent la déclaration dans son intégralité, qu'elles prennent toute leur place alors dans cette nouvelle gouvernance mondiale qui devra nécessairement voir le jour. Car l'héritage de la DUDH nous incite à passer effectivement à l'offensive. Il nous commande de résister aux attaques mondiales, transnationales et locales contre les droits. Mais il nous indique aussi que ça ne va pas suffire. Il nous enjoint de déstabiliser l'édification d'ordre mondiaux qui reproduisent des injustices et privilèges historiques, violent les droits et musellent les défenseurs et défenseuses des droits humains, et de transformer la gouvernance mondiale en la repensant, en l'innovant et en prenant les rênes. Nous pouvons et nous devons construire des systèmes, des institutions et des organes dirigeants audacieux et visionnaires, capables de protéger notre planète pour les générations futures et contre tout ce qui nous assiège. C'est en tout cas le vœu que nous adressons à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour ses 75 ans. Un anniversaire qui nous rappelle l'importance des défis à relever, mais aussi que le combat pour les droits humains est l'affaire de tous et toutes, le nôtre et le vôtre. Alors comment est-ce que Amnesty International défend les droits qui sont dans la DUDH aujourd'hui ? Eh bien, la DUDH, c'est vraiment la pierre angulaire des droits pour lesquels Amnesty International se bat chaque jour. Nous, c'est sur ça qu'on se base en permanence. Plus de 60 ans après avoir commencé ce combat, Amnesty International continue de se mobiliser et de faire campagne pour la justice, pour l'égalité, pour la vérité et surtout pour la dignité dès qu'elles sont bafouées. Pour cela, Amnesty International... Et pour ça, Amnesty International enquête sur les atteintes aux droits humains partout où elles sont commises et nous les dénonçons. Avec notre mouvement mondial, nous soutenons des personnes dont les droits ont été bafoués et ensemble nous demandons justice et nous nous battons pour que cessent les violations des droits humains. Avant de se quitter, je vous informe également que la campagne 10 jours pour signer d'Amnesty International touche à sa fin cette semaine. Je vous encourage donc à aller sur notre site pour signer les 10 pétitions de la campagne de cette année qui concernent 10 cas de personnes ou de communautés à défendre qui sont emblématiques de notre combat pour les droits humains. Les 10 jours pour signer, c'est une campagne des plus efficaces d'Amnesty International et elle fonctionne uniquement grâce à votre mobilisation. Cette campagne a lieu chaque année, durant la première quinzaine de décembre, au milieu de laquelle on célèbre la fameuse Journée internationale des droits humains, le 10 décembre, en référence à la signature de la DUDH à Paris, cette même date. Donc rendez-vous sur amnestyinternational.fr pour découvrir les 10 cas des 10 jours pour signer, notamment par exemple le peuple Wet'suwet'en, dont je parlais la semaine dernière. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio FM+, et bien d'autres figures emblématiques de la défense des droits humains. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes, et à bientôt sur Radio FM+.